Quelle est votre obsession? Moi, la mienne, je vais vous la dire, c'est d'espionner celle des autres sur les forums spécialisés, c'est de faire défiler ces posts sous pseudo à la mise en page sommaire qui ont tous quelque chose à voir avec la même lubie. C'est de me perdre dans ces fils anonymes, animés par un feu qui me dépasse complètement. Mon obsession, c'est de traquer vos passions dévorantes pour un jeu, par exemple, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, pour une machine d'antan, pour un instrument. Je me délecte des détails, des mots incongrus, des idiomes étranges et étrangers qui créent un sentiment d'appartenance ou de communauté. Je m'infiltre voyeur en simple visiteur et je lis vos messages pendant des heures. C'est une obsession parce que je peux pas m'en passer et j'y pense sans arrêt parce que ça me prend tout mon temps, parce qu'il faut que j'aille au bout surtout de ces interminables discussions pour penser m'apaiser tout en sachant que ça ne m'apaise jamais et que je ne suis jamais à l'abri de découvrir une autre lubie à laquelle je n'avais même pas pensé et qui pendant des semaines va m'occuper l'esprit. Il m'arrive d'être étrangement technique, vous savez, voire incollable sur un sujet, mais ce qui m'obsède, c'est surtout tous celles et ceux qui le partagent comme un secret, leur langage particulier, leur plaisir inavoué, leur sublime fraternité.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a fait d'une obsession un métier. C'est un virtuose de la guitare, il en connaît tous les secrets. Il nous a fait voyager de Bamako à Tokyo avec son album Cities, rêver d'images de cinéma dans films et vibrer en s'emparant des partitions de grands maîtres tels que Scarlatti ou Vivaldi. À Corde et à cœur, son autobiographie vient de paraître. C'est un récit de passion, de liberté, de sensation. Bonjour Thibaut Covin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ma vraie question, comment on gère une obsession? Comment on fait pour s'en sortir, Thibaut?
Oh, moi j'en ai une très forte avec la guitare. Je m'en suis un peu sorti quand même, mais c'est vrai qu'ado, je ne pensais qu'à ça, je vivais que pour ça. Chaque minute de chaque journée devait être consacrée pleinement à la guitare.
Comment ça se manifestait?
Oh, c'était une dépendance absolue, c'était porté par un rêve d'ado. Certains ados veulent conquérir le monde, moi c'était avec la guitare, je voulais être le meilleur guitariste du monde. Et du coup, dès que je passais pas du temps à travailler la guitare, avec dévouement et passion totale, j'avais l'impression de perdre du temps.
Et vous jouiez dans votre tête quand vous ne jouez pas?
Ah, je jouais tout le temps dans ma tête. Je jouais entre les wagons des trains quand je voyageais. Je jouais dans la chaufferie du lycée pendant la récréation. C'était tout le temps, tout le temps.
Et dans quelle mesure, parce que vous le disiez un petit peu, la guitare ne vous obsède plus tout à fait de la même façon pendant ces années de lycée ou de conservatoire, Thibaut Covin? Qu'est-ce qui a changé?
Ça a changé qu'après, vers mes 20 ans, j'ai commencé à donner des tournées aux quatre coins du monde et puis à voir qu'il y avait d'autres gens, qu'il y avait d'autres vies, que tout le monde n'était pas guitariste, que tout le monde n'était pas obnubilé par le bruit des cordes, par le bruit des doigts, et qu'en fait, on pouvait parler de coucher du soleil, de cuisine, de promenade. Oui. Et j'ai trouvé ça très intéressant.
Mais
aussi.
Mais tout en me disant ça, vous jetez un œil sur votre droite.
Eh oui, parce qu'elle est toujours là.
Elle est toujours là quand même. Vous pouvez la prendre, vous nous la présenter, cette guitare que vous avez ce matin. Quelle guitare est-ce que c'est?
Ah, c'est une guitare absolument incroyable qui est créée par un luthier fabuleux, qui s'appelle Jean-Luc Joie, qui est un des plus grands luthiers au monde, qui habite à Bordeaux et qui fait des guitares d'une performance totale, avec un charme magique.
Vous la faites entendre?
Oui.
En quoi chaque guitare, chaque instrument produit un son unique, un son qui lui est propre?
Ah, c'est presque vivant. Ce que cherchent les guitaristes un peu performeurs, disons, c'est un côté, une guitare qui soit puissante, qui soit dynamique, qui réponde tout de suite, qui ait des couleurs très riches, parce que la grande spécificité de la guitare par rapport à la plupart des autres instruments, c'est qu'en jouant la même note, comme celle-ci par exemple, on peut arriver à la colorer. Là, vous allez voir qu'elle devient un petit peu plus aigre, un petit peu plus fine, un petit peu plus citron. Alors que si je vais vers la gauche de la corde, au contraire, elle devient plus caramel, plus ronde et plus douce. Alors que c'est la même note à la même hauteur. Et ça, c'est fabuleux. Et certaines guitares réagissent moins à ça, alors que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Je vous adore. Votre première guitare, quel son est-ce qu'elle produisait? Vous vous souvenez?
Oh, je m'en souviens pas bien parce que j'avais 4-5 ans. Je me souviens plutôt de textures presque digitales, des cordes sur mes doigts, de cette envie de faire comme mon père qui lui jouait du matin au soir. Mais c'est vraiment, c'était tellement naturel et omniprésent que j'ai l'impression que j'ai appris à jouer presque avant de parler.
Qu'est-ce que c'est un beau son de guitare pour vous?
Ah, c'est assez subjectif. Pour moi, c'est un son qui justement puisse être changé, qui puisse être coloré. Mais si un son d'identité doit être pur, c'est pour ça qu'on joue avec les ongles aussi, les guitaristes classiques, afin que ce soit très précis et en même temps assez rond.
Oui. Vous parlez parfois de la propreté du son. Ça m'a fasciné, la propreté. Dans quelle mesure ça a pu être une obsession?
Ah, ça, c'était une obsession absolue. Je ne pensais qu'à ça.
Ça veut dire quoi?
Par exemple, le piano, c'est par nature assez propre, alors que le violon, ça peut l'être beaucoup moins, et la guitare encore moins, parce que la main gauche peut faire des bruits comme là, de cordes, notamment les cordes graves quand on va dessus, les frettes, elles peuvent aussi faire des bruits, et puis la main droite, elle, elle fait des bruits d'ongles, de doigts, et tout ça pollue la pureté des notes, et ça devient une folie. Je pensais qu'à ça, ça me rendait dingue.
Alors comment on y remédie? Avec quel exercice?
Ah, il y en a des centaines, des dizaines, des milliers. mais c'est une attention totale, et puis c'est des heures de travail sans fin.
Vous nous montrez?
Oui, par exemple,
des son propre.
Un son propre, je peux vous faire 4 notes propres. Là, il y a pas de bruit. C'est très bien. Mais je peux vous faire avec des bruits. Des bruits qui polluent derrière, et puis des bruits de main gauche. J'arrive même plus à le faire à des bruits tellement que j'ai travaillé.
Vous savez sur quoi je bloque? Là, je bloque évidemment hein, sur vos mains. Qu'est-ce qui d'ailleurs pour vous caractérise les mains d'un guitariste classique?
C'est assez étonnant. Moi j'ai ma main gauche qui est bien plus grande que ma main droite, de presque 1 centimètre. Un peu comme... parce que la main gauche est très sollicitée de manière sportive. Il y a des écarts très importants. Et puis, ça demande de la force, même si on essaye de ne pas trop en utiliser. Alors que la main droite, elle, au contraire, il faut être tout en douceur. C'est celle qui gratte les cordes. Et du coup, elle est plus fine. C'est presque assez amusant. Il y en a une qui est plus féminine et l'autre plus masculine.
Et vous avez des grands ongles.
Ouais. La main droite, donc, qui est la plus féminine aussi, a des ongles. C'est amusant. Et c'est des ongles particuliers qui sont en gel. Les miens, ils sont faits sur mesure par Françoise de l'onglerie de la Madeleine.
Mais au fond, qu'est-ce qui fait la profonde complexité de cet instrument pour vous, Thibaut Covin, la guitare, par rapport au piano, par exemple?
Je pense que c'est un instrument d'une intimité absolue. Justement, le fait qu'on puisse sculpter chacune des notes, il y a un côté direct au cœur. Il n'y a pas de passerelle. C'est un instrument aussi qui est l'instrument du voyage, qui est l'instrument des rencontres, qui est un instrument éminemment populaire, qui est joué dans toutes les musiques. Moi, j'adorais cette diversité. J'étais très fier ado d'être le petit cousin de Jimi Hendrix, de Django Reinhardt, de Paco de Lucía. Je trouvais ça fabuleux d'avoir cette diversité. Et ouais, c'est l'instrument des rencontres.
J'ai l'impression que ce dont vous nous parlez, c'est d'un champ des possibles, en fait, Thibaut. Et qu'est-ce que ça ouvre, justement, du point de vue de l'interprétation? Qu'est-ce que ça permet? Une multitude de possibles, là aussi.
Ouais, presque infini. Et moi, qui suis très attaché à la liberté, je choisis toujours des musiques et des compositeurs qui offrent cette part de liberté à l'interprète. Et ce qui est fabuleux avec la guitare, c'est que je trouve qu'il y a une richesse de possibilités qui offre à l'interprète une vraie un champ de créativité immense.
Quand elle nous raconte la liberté, comment est-ce qu'elle parle, votre guitare?
Oh, la liberté, pas facile.
Ah, c'est vous. Vous savez, Thibaut Covin, qu'il y en a une dans cette émission qui ne dispose d'aucune liberté parce qu'on la contrôle et Dieu soit loué. C'est évidemment la culture et son actualité, points et pieds et poings liés. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 25 février?
Je crois que ma joie est à la hauteur des obstacles qu'on a surmontés.
Diwan, number one, après avoir remporté le Lion d'Or à Venise en septembre avec l'événement, la cinéaste Audrey Diwan vient de rafler le prix Alice Guy de la meilleure réalisatrice de l'année. Variation sur le roman d'Annie Ernaux, son long métrage, l'événement fait également partie des grands favoris de la cérémonie des Césars, nommée 4 fois ce soir, notamment dans la catégorie meilleur film. Touche d'espoir, elles avaient été démolies et dispersées par l'État islamique. 7 ans plus tard, 3 statues de la cité de Hatra, située au sud-ouest de Mossoul en Irak, ont été restaurées. Un buste grandeur nature d'inspiration romaine ainsi que des visages sculptés ont retrouvé leur place hier au sein du site archéologique vieux de plus de 2000 ans et classé patrimoine mondial en péril de l'UNESCO.
I found intuitively that only that prose form, prose fiction, could handle things that have been bubbling up inside me.
Ce Inca de force majeure, demain, dans le cadre de son cycle Tigritude, le Forum des images à Paris propose une conversation exceptionnelle avec l'écrivain nigérian et prix Nobel de littérature, Wole Soyinka, parrain de l'anthologie cinématographique panafricaine proposée jusqu'à dimanche. L'auteur de La mort et l'écuyer du roi sera aussi dans Boomerang le 21 mars prochain. Enfin, Fishback, back dans les bacs, 5 ans après À ta merci, son formidable premier album, la chanteuse ardennaise Flora Fishback dévoile aujourd'hui Avec les yeux, un deuxième opus à la grâce spectrale, porté par les morceaux Masque d'or et Téléportation. L'album se déploie en 11 titres, aux textes surréalistes qui s'envisagent comme des échappées poétiques, entre balades sur le fil et tempêtes de synthé atmosphériques aux atours savamment rétro. C'est très très beau. Et le guitariste Thibaut Covin et sa guitare, invités tous les deux de Boomerang ce matin pour revenir sur un parcours assez hors du commun, où dès le plus jeune âge, en fait, vous vous êtes mis, Thibaut, à remporter les concours les uns après les autres. La compétition, je me suis demandé quel moteur est-ce que ça a pu être pour vous?
Ah, c'était fabuleux, mais c'était dans une approche tout à fait noble. C'était pas l'idée de battre les autres, c'était plutôt de se surpasser. On était comme des frères fous de guitare, tous venus des quatre coins du monde, avec des cultures et des éducations très différentes, un japonais, un brésilien, un russe. Mais on avait tous cette passion absolue pour la guitare et l'envie de jouer tous le mieux possible.
Alors c'est intéressant, qu'est-ce qui fait pour vous la qualité de l'enseignement de la guitare en France? Parce que vous dites que c'est l'une des meilleures écoles de guitare classique.
Oui, je trouve qu'un mariage assez heureux en France est un peu unique entre la discipline qui est totalement nécessaire et en même temps une part de liberté et une invitation à la créativité. Et il y a certaines écoles où, notamment en Chine par exemple, où c'est complètement impressionnant de voir des jeunes Chinois qui jouent de manière absolument parfaite, et ça manque peut-être parfois, souvent, de folie. Et d'autres fois, quand je vais au Brésil, il y a pour le coup cette folie, mais il y a peut-être moins la discipline qui permet d'avoir justement ce jeu parfaitement pur, propre et performant. Parce que...
Surtout quand on s'attaque à un répertoire classique, quel lien est-ce que vous entretenez, vous, Thibaut Covin, avec le répertoire classique de la guitare?
Ah, j'en suis totalement amoureux, fasciné, c'est infini, c'est un océan de partitions. Et puis il y a un côté effrayant de se dire qu'on pourra jamais tout jouer. Moi qui suis gourmand de tout, j'ai envie de plonger dans chacune des partitions, mais c'est impossible, c'est troublant ça aussi. Mais j'aime beaucoup ça. Mais je suis également très attaché à la musique classique d'aujourd'hui, à la guitare classique d'aujourd'hui. Je crois que l'âge d'or de la guitare, c'est maintenant, un peu comme les violonistes ont peut-être connu cette époque avec Paganini, à l'époque-là, les luthiers, les virtuoses, les plus grands compositeurs vivaient. Et puis nous, je crois que c'est maintenant pour la guitare.
Mais vous dites pour autant que pendant longtemps, vous avez été moins Schubert que Mick Jagger ou Jimi Hendrix, plus rock que classique.
Au fond de moi, je me sens plus d'aujourd'hui, de maintenant. Je suis plus... Mon père, lui, était un rocker. On écoutait enfant des musiques complètement barrées. Et je suis peut-être, oui, plus fasciné, plus à l'aise dans ce monde-là que dans les livres anciens.
Mais attendez, moi, je veux savoir, quand vous lâchez les chiens, qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous glissez dans la peau d'une rockstar, Thibaut, quelles notes, quels accords, quels riffs, même avec une guitare classique, vous viennent immédiatement au bout de vos doigts? Ce qui est incroyable, c'est que c'est votre maison de disque, un moment qui vous a fortement encouragé à vous tourner vers un répertoire plus traditionnel. Pour quelle raison, à votre avis?
Comme j'ai signé avec Sony Music il y a bientôt une dizaine d'années, leur stratégie était de me réinviter dans le répertoire classique. Mais on a choisi un compositeur classique un peu fou, un peu solaire, un peu rock'n'roll, justement.
C'était Scarlatti.
Scarlatti. Voilà, qui a écrit 555 petites pièces, des sonates, et qui sont solaires et sublimes. Et c'est vrai que leur stratégie était, pour me présenter au public, de revenir à ces grands compositeurs. C'était peut-être plus adroit. Et au début, je m'y étais opposé, mais en fait, j'étais très heureux de replonger dans ces partitions-là. Parce que moi, à cette époque, je commençais à donner beaucoup, beaucoup de concerts, et j'étais attaché à la scène et puis à l'actualité, au fait d'être dans notre époque. Ça me plaît beaucoup, c'est un besoin.
Mais dites-moi, toutes ces pièces, vous les connaissez encore par cœur?
Oh, quand je replonge dans les partitions, elles me reviennent tout de suite, mais j'ai une mémoire qui est étonnante, qui fait que quand je termine un projet, je l'oublie, mais je peux le retrouver très rapidement.
Thibaut Covin, en vous confrontant à l'œuvre de Scarlatti, quel genre de difficultés techniques est-ce que vous avez dû surmonter?
Oh, pas des difficultés. Il y a un côté virtuose, bien sûr, parce que ces pièces sont écrites à l'origine pour clavecin. Et donc, il y a ce qu'on appelle les transcriptions, c'est-à-dire adapter la partition. Et j'ai été passionné par tout ça. Et donc, essayer de faire en sorte que ces partitions-là à la guitare aient un sens, mais non seulement un sens, qu'on puisse presque imaginer qu'elles aient été écrites pour la guitare. Et l'idéal est de se dire que finalement, c'est mieux à la guitare qu'au clavecin.
Donc, ces transcriptions, elles existent, mais vous les avez réinterprétées, réécrites également.
Exactement.
En fin de compte, qu'est-ce qui permet d'améliorer et d'enrichir son jeu de guitare? Pour vous,
c'est essayer d'être sincère avec qui l'on est, comme dans beaucoup de choses, je crois, voire dans tout. Et puis après, c'est des dimensions techniques. Parfois, il y a un côté dont je m'écarte, mais c'est vrai qu'à dos, je voulais toujours jouer des morceaux les plus difficiles possibles. Il y avait un côté performance, essayer d'impressionner, essayer de faire l'infaisable. Et aujourd'hui, ça m'intéresse moins. Je suis plus attaché à une forme d'authenticité, de presque de simplicité. Je trouve qu'on est plus sincère dans les choses faciles. Que dans les choses complexes.
Mais à vous entendre, il y a quand même cette dimension d'expérimentation, j'ai l'impression, d'aller chercher toujours.
Oui, j'ai ce besoin de toujours repousser les limites aussi, d'essayer de... Je suis un voyageur dans la vie, mais je suis aussi un voyageur dans la musique. J'aime être vulnérable, essayer, expérimenter. Et justement, ma collaboration avec mon luthier Jean-Luc Joie est idéale. Et ça m'a permis, dans mon dernier disque, de, par exemple, connecter des pédales d'effet de guitare électrique à ma guitare classique. Donc cette guitare classique qui pouvait jouer Scarlatti s'est retrouvée à jouer des musiques comme la musique de Drive, par exemple.
Alors c'est ça, parce que je pense tout de suite à cet album qui s'appelait Film, où vous réinterprétez certaines musiques de films, justement, de In the Mood for Love, aux choses de la vie, en passant par The Hours, Kill Bill ou encore Drive. En quoi la musique de cinéma se prête particulièrement à l'expérimentation pour vous?
C'était... parce que le cinéma, c'est le grand spectacle, c'est tous les arts qui se mélangent, et c'est pour moi, peut-être que ça n'est pas vrai, mais j'ai cette image de me dire qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas d'interdit, et c'était le terrain de jeu idéal pour faire mes expériences musicales. Et puis le cinéma, c'est aussi le rêve absolu, c'est l'onirisme. Et moi, j'ai vu beaucoup de films dans l'avion, je trouve qu'on est hyper sensible dans l'avion, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Moi, je sais, en fait, Thibaut, c'est que vous ne pouvez pas jouer dans l'avion, donc du coup, vous devenez complètement obsédé.
C'est vrai.
Et vous imaginez la transcription qui n'existe pas encore du film que vous êtes en train de regarder.
Ah oui, j'ai déchiffré beaucoup de partitions dans l'avion, c'est-à-dire que je prends les partitions que j'ai jamais vu, et je me faisais des challenges quand j'étais ado. L'idée, c'était que quand je faisais un Paris-New York, quand j'arrivais à New York, je devais être capable de jouer la partition par cœur, alors que je l'avais jamais ouverte avant de partir.
Voilà, pendant ce temps-là, moi, je lisais un Daniel Steele. On va expérimenter ensemble, hein, Thibaut, avec votre prise de Night Call de Kavinsky, qui hante le film Drive de Nicholas Winding Refn. Vous êtes sur France Inter avec Thibaut Covin. Vous écoutez Boomerang à la guitare.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
En fait, on est quelque part entre le petit garçon des choristes qui aurait grandi trop vite, vous savez, et Django Reinhardt, période Vianney. Le regard clair et juvénile, le sourire jusqu'aux oreilles, le cheveu court, propre et net, rien qui dépasse la sobriété, et une forme de joie aussi, tout en surchemise. Ce matin, le guitariste Thibaut Covin, invité de Boomerang, pour parler de guitare, de répertoire, mais aussi d'arrangement. L'arrangement qui est l'art d'adapter une œuvre à un instrument pour lequel elle n'a pas été écrite au départ. Qu'est-ce que c'est pour vous un bon arrangement? À quoi ça tient?
Ah, c'est quand on se dit que c'est mieux que l'original. L'idée, c'est de prendre une partition qui est écrite pour piano, pour ensemble, et puis de l'adapter à la guitare. Alors, beaucoup ne fonctionnent pas, mais quand on fait le choix de s'y plonger, l'idée est d'assembler les notes de manière à ce que ça sonne naturel à la guitare, et puis que quelqu'un qui écouterait les deux versions et qui ne sait pas laquelle est l'original ait un doute, et puis encore mieux qu'ils se disent c'est mieux à la guitare.
Alors, on le disait tout à l'heure, ce sont des sommes de réécriture, en fait, les unes après les autres.
Exactement.
Ce qui fait qu'il n'y aura jamais un arrangement similaire.
Non. Après, il y a des arrangements qui sont rentrés dans le répertoire, qui sont devenus partie intégrante qu'on apprend dans les conservatoires en France, vous voyez, partout dans le monde.
Par exemple
Justement, les sonates de Scarlatti pouvaient fonctionner. Sinon, il y a des musiques de Piazzolla. Astor Piazzolla, compositeur argentin fabuleux, dont j'oublie le début, mais qui va me revenir.
C'est pas grave, vous pouvez prendre au milieu. Hein.
Ouais.
Vous savez, on verra pas la différence, nous, mais on sera curieux.
Et donc au départ, c'est pour ensemble. Et certains arrangeurs, un thé fabuleux, il s'appelle Roland Diens, il est thé français, et lui est excellé. Il avait ce don, cette magie de pouvoir prendre une partition qui semble infaisable à la guitare, et puis on l'écoutait à la guitare et on se disait que c'est mieux qu'à l'original.
Et n'importe quelle partition, n'importe quelle œuvre, plutôt, peut être arrangée, retranscrite, adaptée par la guitare?
Non, justement, après, il y en a qui se donnent des challenges, il y a un japonais notamment.
Bah, les partitions de batterie, c'est difficile.
Exactement, ou même d'orchestre symphonique, après, ça peut devenir une dimension sportive, mais là, ça a moins d'intérêt.
Si on prend l'exemple du compositeur espagnol Isaac Albéniz, auquel vous avez d'ailleurs consacré un disque et dont l'instrument de cœur était le piano, en quoi ces morceaux se prêtent particulièrement bien à la guitare, Thibaut?
Bah, lui était espagnol, amoureux de l'Espagne, de son pays, de la tradition et donc de la guitare, instrument un peu phare. Et il en jouait pas, mais en revanche, il essayait de reprendre toutes les couleurs, le côté justement texture, digital.
D'imiter une guitare, en fait.
Ouais, exactement. Et donc du coup, quand on adapte les partitions pour piano d'Albéniz, finalement, on réalise son rêve d'une manière.
Mais ça, vous l'avez lu ou vous l'avez compris en le jouant, en l'écoutant?
Alors, ça se comprend naturellement assez vite. Par exemple, il y a un thème assez connu. Ce thème-là, qui est même repris en rock and roll, eh bien en fait c'est pour piano, sauf que c'est plus joué à la guitare parce qu'après on arrive dans des rasguedo.
J'adore les rasguedo, moi.
Ah ouais, c'est mieux à la guitare qu'au piano.
Attendez. En tout cas, ce qui est passionnant, hein, c'est que par ce travail d'arrangement, vous ne cessez d'élargir votre répertoire, en fait. Dans quelle mesure est-ce que c'est difficile pour vous de trouver des musiques qui vous plaisent, des musiques que vous avez envie de jouer, vous?
Ah, de plus en plus. De plus en plus, et c'est pourquoi ces derniers temps, je vais solliciter des compositeurs que j'aime, et je vais les voir avec des rêves, avec des idées, avec des références, et ensemble, on collabore, et ils m'écrivent mes partitions idéales, et de plus en plus avec mon frère Jordan, et c'est fabuleux parce qu'on se comprend tout de suite, on a la même histoire, en tout cas semblable, et du coup j'arrive là avec des idées, avec des références musicales, des choses parfois complètement décousues, et puis je lui donne tous ces ingrédients comme à un chef, et lui m'en sort un plat étoilé, et j'adore ça.
C'est intéressant, qu'est-ce que vous recherchez dans une partition de guitare, vous?
Ah, ça dépend, mais c'est vrai que moi je suis très attaché au voyage, et du coup j'aime bien m'inspirer des musiques qui viennent d'ailleurs, ce côté bout du monde, il y a un côté aussi parfois...
Donc vous allez voir votre frère Jordan et vous lui dites Corée du Sud.
Ouais, mais après c'est plus complexe, ça peut être des images. En effet, Corée du Sud, ça peut être, lui décrire la ville de Busan, qui est au sud de la Corée. Il y a un port assez incroyable, c'est un peu le Marseille coréen. Il y a une ambiance étonnante, il y a un parfum dans toute la ville. Il y a des oiseaux, il y a un coucher du soleil étonnant le soir. Et puis après, il y a une frénésie, il y a un côté... Voilà, je lui raconte tout ça. Et puis après, je peux lui donner... En même temps, j'aimerais bien que ce soit cette ville coréenne, mais avec un bruit de vélo, ou alors une référence qui peut être la musique des Daft Punk. Et donc là, on peut penser qu'il n'y a rien à voir. Mais en fait, lui arrive à trouver des choses. Et puis après, je peux lui dire, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait aussi que ça dure 3 minutes, après des choses plus concrètes.
Et quelle est la première commande que vous ayez passée, Thibaut Covin?
Oh, je m'en souviens plus vraiment. C'était ici, je m'en souviens, c'était pour mon père. Mon père est compositeur aussi, et quand j'avais 12 ans, je voulais justement jouer des morceaux toujours très difficiles. Et puis mes camarades au conservatoire ou mes professeurs me disaient « Non, t'es trop petit, tu peux pas jouer ça, tu joueras ça quand tu seras plus grand. »
Quand t'auras des vrais ongles, voilà. Avec l'onglerie de la Madeleine.
C'est ça. Et je suis allé voir mon père, je lui dis « Écoute, j'en ai marre, il faut que tu m'écrives le morceau le plus difficile de la Terre. »
Et comment ça s'appelait?
Ça s'appelait Rock Thibaut Covin. Il me l'a composé pour mes 13 ans, il arrive, mais il a réussi. Et puis moi, j'ai réussi à le jouer, et je le joue souvent en
concert.
Qu'est-ce
que ça veut dire Rock Thibaut Covin, Thibaut?
Ben, rock comme rock'n'roll, l'énergie, le mélange des cultures, l'envie de sauter en l'air.
Et puis Covin.
Et puis il y a Typique, entre ouais. L'hymne familial, et puis Covin, mon nom de famille.
Alors ça donne quoi? Il faut nous montrer. Vous vous en souvenez?
Ouais, je m'en souviens. Je le joue souvent, j'adore.
C'est un morceau de bravoure, en fait.
Ouais, c'est l'énergie, c'est l'envie de fédérer, c'est l'envie de faire du rock'n'roll avec de la guitare classique.
Et quel compositeur est-ce qu'il est, votre père? Qu'est-ce qui fait sa singularité?
Ah, c'est qu'il est inspiré de tout et de rien. Il fait une musique complètement lunaire comme lui est. On peut pas discuter avec lui, on le comprend pas parce qu'il vient d'ailleurs. Et puis il a une passion folle pour la guitare, toutes les guitares. Lui vient du rock avec des groupes un peu à la mode quand il était ado, si ça vous amuse de chercher. Papouze, il avait les cheveux bleus, il était maquillé de partout.
Puis ça s'appelait Papouze?
Papouze.
Vous savez qu'il y a un nouveau groupe qui s'appelle Papouze?
Qui est d'ailleurs souvent au Cap Ferré, un peu mes terres
de
surf.
Ah bon? Ça j'ignorais.
Et puis ensuite... Mon père a bifurqué vers le jazz, il avait un trio fabuleux qui s'appelait Uppsala, hyper créatif dans ce mouvement un peu de magma, peut-être certains connaissent. Et puis après la guitare classique, il est tombé amoureux du répertoire, de l'histoire, de ce son et de l'intimité. Moi je suis né à cette époque et c'est pour ça qu'il m'a tendu une guitare classique plutôt qu'une autre, mais colorée de toutes.
Un jour Thibaut Covin, je vous ai entendu dire quelque chose d'intéressant, que le statut en fait virtuose était incompatible avec celui de compositeur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, c'est vrai que il y a un côté, ça demande un tel dévouement... Il y a un côté expert. Et j'ai longtemps cru ça, mais je commence à changer d'avis, mais pas complètement. Je me disais qu'on pouvait pas être à la fois Federer et puis un champion de ping-pong, Federer ou Zlatan Ibrahimovic, voilà. Et en fait, ça demande un tel des heures passées, qu'on peut pas être, voilà, interprète virtuose, et à la fois compositeur érudit. Mais je crois que c'est pas vrai, que je me suis trompé.
Entre nous, composer, vous le faites?
Non, mais ça me fascine.
Ça vous titille?
Beaucoup.
Et j'ai plus dit ça pour utiliser le verbe titiller, qu'on emploie très rarement dans Boomerang.
Ouais. Qui sonne joliment, je trouve. Mais avec mon frère, beaucoup. C'est lui qui pose et qui couche les notes sur le papier, mais beaucoup d'idées viennent aussi de moi. Il y a un échange, il y a un jeu de ping-pong, et il y a un jeu de boomerang, et c'est assez agréable.
Thibaut, vous allez nous faire croire que là, vous n'avez jamais composé, par exemple, sous un faux nom, sous le nom de Stanley Cole?
Ah, bravo. Si, c'était avec un ami pour un concert qu'on faisait à Bordeaux. Ah, bravo, ça m'amuse de raconter ça. J'avais, pour mes 15 ans de carrière, il y avait le Fémina, qui est une belle salle à Bordeaux, un peu l'Olympia bordelais. On avait rassemblé un ensemble de 100 guitares pour célébrer cette fête. Et on n'arrivait pas à trouver de partition, on a cherché partout. Et puis mon collaborateur, mon agent et mon manager de l'époque me dit « Écoute, t'as qu'à l'écrire cette partition. » Et puis je me sentais pas légitime, et puis j'ai quand même eu envie de le faire, et je l'ai signé Stanley Cole.
Et pourquoi Stanley Cole?
Bah, j'aimais bien l'idée new-yorkais.
Moi-même, je compose des livres sous le pseudonyme de Margaret Potter, si ça se trouve, Thibaut. Elle était faite de quoi, cette partition? Qu'est-ce qu'elle racontait?
C'était justement une énergie, une envie de fédérer, l'idée dans cet ensemble de 100 guitares. Il y avait des jeunes, des vieux, des gens qui jouaient très bien, des amateurs, il y avait aussi des guitaristes électriques, même des bassistes. Et c'était vraiment l'envie de fédérer tous ces gens et d'arriver à trouver une partition qui puisse être universelle, accessible et en même temps libre. Et donc du coup, c'était une écriture un peu étonnante dans des cases. Il y avait un côté presque mathématique. C'était des formules qui pouvaient ensuite être rassemblées. Et le chef d'orchestre était un ami, Jonathan Raspienjas, et lui était presque là comme un DJ, et il lançait les formules avec les différents groupes de musiciens.
Alors c'était pas un morceau que vous avez composé, que vous avez choisi de nous jouer ce matin, mais un morceau composé par votre frère, Jordan Covin. Ça s'appelle Valse pour Alina.
Et c'est une valse russe, triste.
On ne se lasse pas de vous regarder, de vous écouter jouer. Merci infiniment Thibaut Covin d'être venu faire un tour dans cette émission. C'est formidable. Merci aussi à Nicolas Delmas et à Alix Barrois à la prise de son et à la technique. Ce matin, je rappelle Thibaut que Accorde et à cœur, votre autobiographie en collaboration avec François Delettraz vient de paraître aux éditions du Rocher. Je précise également que vous serez en tournée dans toute la France à partir de mercredi à Nantes, puis à Nice, Dole de Bretagne, Bordeaux, Digne-les-Bains, sans oublier un passage par le théâtre des Champs-Élysées le 20 mars. Merci à vous et à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Victor Candelaft, Pierre Démé et Jean-Baptiste Audibert.